Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la dernière bulle d'histoire de 2022. Je suis avec un éditeur, on termine avec un éditeur et pas avec un auteur ou une autrice. Je suis avec Nicolas Anspach, qui est belge, qui a créé sa maison d'édition, la maison d'édition qui porte d'ailleurs son nom. Nicolas, avant de parler de votre travail d'éditeur, des albums que vous éditez, des auteurs que vous défendez, de un peu votre ligne éditoriale, question traditionnelle avec lesquelles j'ouvre toutes mes émissions, qui êtes-vous donc ?
Tout d'abord, ce qui me caractérise le plus, c'est que je suis un passionné de la bande dessinée depuis mon enfance et que cette passion ne m'a jamais quitté. Donc, je me souviens encore très bien de l'émotion que j'ai eue quand ma mère m'a offert un abonnement à Spirou avec un Spirou dont la couverture était dessinée par Franck P. en 83, je pense, mais j'en suis pas certain. Il faut que je me dis je me dis régulièrement qu'il faut que je trouve sur eBay ce Spirou-là pour le relire. Et donc, cette passion ne m'a jamais animé. J'étais bien sûr enfant, adolescent, lecteur. Et puis, jeune adulte, j'ai participé en tant que bénévole à un festival de bande dessinée qui s'appelle Durbuy, dans les Ardennes belges, qui a vraiment fort marqué les années 80, début 90, la population belge, ou en tout cas ceux qui s'intéressaient à la bande dessinée. Et j'ai rencontré des gens qui participaient à un fanzine, et puis de fil en aiguille, j'ai été amené à participer à ce fanzine en écrivant des courts articles, puis en faisant des interviews d'auteurs. Ce fanzine s'appelait Orakan, donc c'était un bimensuel qui existe toujours sur Internet, qui s'appelle Orakan.com, donc il suffit de chercher. Et ensuite, j'ai rejoint ActuaBD.com, qui est surnommé par Patrick Gomer, qui a écrit le Larousse de la bande dessinée, l'AFP de la bande dessinée. Donc j'ai écrit plus ou moins 1600 articles, je ne parle même pas des brèves, pendant 10 ans. Voilà, c'est vraiment. Là, il y avait une vraie équipe avec Didier Passamonique, avec Charles-Louis de Tournay, avec Thierry Lemaire, avec d'autres. Dans l'équipe d'ActuaBD, il y a en permanence une dizaine de personnes qui sont très actives, et puis ça va et ça vient. Je faisais ça et ils font ça de manière bénévole, et donc parfois, à certaines périodes de notre vie, ça devient très lourd et donc on va vers d'autres choses. Et puis il y a des gens qui sont engagés par des maisons d'édition ou qui lancent leur projet. Il y a Morgane Di Salvia, rédacteur en chef de Spirou, qui est passé par ActuaBD. Il y a moi, donc, qui est passé par ActuaBD forcément et qui a travaillé pour une maison d'édition suisse et puis qui a lancé ma propre maison. Il y en a d'autres qui ont écrit des scénarios de bande dessinée. Donc, c'est une excellente école, très formatrice, mais il faut être passionné et avoir ce goût du partage. Et voilà, il y a des personnes qui s'investissent beaucoup dans le social. Moi, c'était dans la culture avec ActuaBD.
Oui, je précise ActuaBD, c'est donc un très gros site d'actualité de la bande dessinée et ils ont une newsletter quotidienne. Donc, c'est pour dire qu'il y a un flux très important de news et de critiques d'albums sur ce site. Et effectivement, c'est fait par des passionnés qui ont une plume souvent de grande qualité. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à passer du journalisme de bande dessinée, pas forcément à l'édition tout de suite, parce que je sais que vous avez travaillé pour les éditions Paquet, mais en tout cas, comment on arrive à créer sa propre maison d'édition ?
Donc j'ai travaillé pour cet éditeur pendant 2 ans, mais qu'un seul jour par semaine. Donc je faisais ça en plus d'un vrai boulot qui me faisait vivre. Et accompagner des auteurs, les conseiller, avoir un avis sur leur œuvre, leur dire « Ah, peut-être que là tu te trompes, tu devrais faire ceci », et quand ils viennent avec une solution à laquelle on n'a pas forcément enfin, avec une autre solution qui est différente de celle qu'on a proposée, mais qui est tout aussi bonne, c'est très, très réjouissant et c'est très intéressant. Et donc, c'était ce que j'avais fait le plus passionnant. Donc, quand j'ai quitté Paquet, j'ai eu un passage à vide pendant 2 ans parce que ce que j'avais fait de plus passionnant, je l'avais plus. Donc, voilà. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, etc. J'ai voulu essayer de réécrire des articles sur ActuaBD, mais je sentais que c'est pas du tout péjoratif par rapport à ce travail de journaliste que j'ai fait ou de journaliste bénévole. Peut-être que j'y reviendrai un jour. Mais j'avais l'impression d'avoir monté de 10, enfin, je sais plus, de redescendre de 15 ou 20. Je ne sentais pas l'énergie à ce moment-là d'écrire un livre ou des recueils de monographies. Et puis, il y a Baudouin Deville, qui était graphiste à l'Atomium, qui m'a dit, « Ah, Nicolas, je suis, comme tu sais, en plus de ma série Rider on the Storm, je suis graphiste à l'Atomium. »
Je vous coupe pour expliquer ce qu'est l'Atomium pour les auditeurs français.
L'Atomium, c'est notre tour Eiffel. Voilà, c'est le symbole de la Belgique et un monument qui est à Bruxelles, que tout le monde connaît, qui est l'identité belge. Donc, Baudouin me dit, j'en ai parlé avec Pierre Paquet, qui me conseille de travailler avec un scénariste marseillais. J'ai répondu à Baudouin, un scénariste marseillais, mais oui, je l'ai eu au téléphone, il ne savait pas ce que c'était l'Atomium, mais il paraît qu'il est très bon. J'ai dit, Baudouin, il faut que ça respire la Belgique, il faut que ces albums puissent être lus par les Français, être compris, mais il faut que ça respire la Belgique, c'est l'identité pour moi de ce type d'album. Et donc, il m'a dit, mais t'as pas une idée de scénariste? Et enfin, je lui ai dit, je vais réfléchir. Et directement, j'ai pensé à Patrick Weber. En fait, j'avais lu Wessentine qu'il avait fait avec Nickoby chez Glénat, un roman graphique sur les îles bretonnes. Il en a fait 4, je pense, de mémoire. Je venais de refermer ce bouquin et en fermant ce bouquin, je me sentais breton. Bon, ça doit tenir bien plus de Patrick, de Nickoby qui est breton et qui mettait beaucoup de lui, à mon avis, dans le scénario que de Patrick Weber, mais je voulais ça. Et puis, je me suis souvenu que Patrick a écrit des Alix, il a écrit d'autres bandes dessinées, il en avait écrit 20 minimum. Il est historien, il est journaliste, spécialiste dans la royauté, et c'est toute comparaison gardée, c'est une sorte de Stéphane Bern belge. Et je me suis dit, mais tiens, ce serait intéressant de le contacter pour ce type d'histoire. Et il faut savoir que quand j'étais chez Paquet, Pierre Paquet avait la licence Bob et Bobette et j'avais déjà contacté Patrick pour pouvoir faire un Bob et Bobette avec lui qui se passerait dans les serres royales de Laeken, mais Pierre Paquet n'avait pas jugé l'idée pertinente.
Dommage.
Voilà. Mais ça arrive à tous les éditeurs de rater des bons projets. Donc,
oui, bien sûr. Non, mais c'est...
Je ne lui jette pas la pierre là-dessus.
Non, mais on ne jette pas la pierre, mais on peut se dire qu'effectivement, Bob et Bobette, on les sert du Laeken, ça aurait pu faire une belle histoire, en tout cas.
Et donc, Patrick a dit, mais bonne idée, moi je me sens plus... l'âme de 50, je me sens plus un enfant de 58 que de 68. Et il a réfléchi à un sujet, on a monté le projet, et un peu dans le dos de Patrick, j'ai présenté à différents éditeurs avec qui je me sentais bien, dans un esprit d'être éditeur pour quelqu'un d'autre d'albums de ce type. Ils ont tous refusé, présenté ça à différentes grandes maisons d'édition, pas à toutes, mais à différentes grandes maisons d'édition, qui m'ont dit « c'est trop belge, ça marchera jamais ». Moi, j'y croyais. J'avais demandé à Patrick de monter ce projet, donc il fallait que je le sorte. C'est un projet qui a mis du temps à se concrétiser. On a travaillé dessus au moins pendant 3 ans. Puis finalement, je l'ai fait financer en partie via un site de crowdfunding qui s'appelait Sundaway. Et à un moment donné, l'Atomium... Ils avaient demandé un droit de regard qu'ils n'ont jamais vraiment exercé, mais ils étaient quand même intéressés par voir notre travail. Et ils nous ont dit, on va fêter les 60 ans de l'Atomium, ce serait bien que l'album sorte à ce moment-là. Et donc, on s'est pressé pour le terminer et il est sorti pour l'anniversaire de l'Atomium et ça a été un succès. Et on s'est aperçu qu'il y avait un vrai engouement des gens par rapport à ce qu'on faisait, que tout le monde nous remerciait de faire enfin quelque chose de construit et de réfléchi par rapport à l'histoire de la Belgique.
Il y a une vraie ligne, en tout cas, c'est vous faites essentiellement de la bande dessinée historique, donc que ce soit de l'histoire plutôt contemporaine avec la Belgique, mais aussi des Vikings ou de l'histoire de l'exploration polaire, voilà,
pardon, oui, oui.
Je cherche mes mots. Vous êtes vraiment dans la bande dessinée historique, c'est votre ligne.
Non, les projets sont faits comme ça. Donc voilà, moi, je veux être un éditeur généraliste, mais il se trouve que faire de la bande, produire de la bande dessinée, si on veut que les auteurs soient payés, ça coûte cher. Donc, faut sélectionner ses projets. Il faut ne pas en faire trop non plus. Pour l'instant, j'ai fait énormément de bande dessinée historique, mais j'ai fait aussi un roman graphique intimiste qui s'appelle L'année zéro, qui parle de la paternité à 50 ans. Donc, voilà, c'est totalement différent. J'ai fait aussi un livre avec Frédéric Janin et Gilles Dalle sur un livre d'humour sur les grands restaurants avec les compliments du chef. Peut-être un autre livre d'humour pour lequel je suis en négociation qui va paraître l'année prochaine. Voilà, j'ai des goûts très variés et j'aime aussi des romans graphiques.
Alors, ce qui est intéressant dans les livres que vous avez publiés donc, sur l'histoire de la Belgique, c'est que pour bien connaître un peu la mentalité et la façon dont les Belges traitent un peu leur histoire, vous allez chercher quand même des sujets qui grattent. Il y a la colonisation du Congo, il y a le racisme, il y a le grand incendie du grand magasin en Belgique. C'est beaucoup, beaucoup d'événements qui jusqu'à présent étaient un peu, pas minimisés, mais dont on essayait de pas trop parler.
Disons que la décolonisation du Congo, c'était la suite logique de l'Expo 58. L'Expo 58, c'était le dernier grand événement d'une Belgique qui s'entendait bien, flamand wallon, avec la colonie, le Congo. Et puis en 59 et surtout 60, il y a eu des dissensions avec le Congo qui ont mené à l'indépendance. Donc c'était logique après 58 de faire le Congo. Après, on choisit les sujets selon nos envies, et comme le premier était un one shot, qu'on a toujours voulu avoir des récits autoconclusifs qu'on peut lire comme ça sans lire la suite ou le précédent. Après avoir fait le deuxième sur Léopoldville 60 sur la décolonisation du Congo, on s'est dit tiens, mais de quoi a-t-on envie de parler? Et vu qu'on n'était pas dans une série, on s'est dit, si on évoquait la jeunesse de l'héroïne en 43, pendant l'occupation à Bruxelles, avec la thématique du soir volé, la thématique du marché noir, etc. Mais là, je me suis dit, mais il n'y a pas de maison, comment est-ce que les lecteurs vont s'en sortir et acheter le précédent ou le suivant? Et j'ai réfléchi à ça, et puis j'ai trouvé, tiens, mais ce serait peut-être bien de mettre une ligne du temps à l'arrière dans laquelle on viendrait épingler les albums au fur et à mesure et annoncer qu'il y en aura un qui se passera en 61 ou en 67. Et donc, à partir de ce moment-là où cette idée de ligne du temps a été trouvée, le champ des possibles était totalement ouvert. Ouais. Et surtout, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que on peut faire exactement ce qu'on veut et on ne veut. On veut suivre nos envies et pas aller là où on nous attend le plus. Disons qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus tendus ou dont on parle énormément en Belgique, les tueurs du Brabant, les cellules communistes combattantes, le drame du Hesel, c'est pas l'affaire du trou. Peut-être qu'on le traitera un jour. J'en sais rien, mais en tout cas, il faut avoir le déclic, l'étincelle, et pour l'instant, pour ce sujet-là, on ne l'a pas. Et ce qui est intéressant, c'est justement qu'on a plein d'autres idées, que l'histoire de la Belgique est très riche, que ce soit après-guerre ou avant-guerre.
Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans les scénarios et dans les dessins, votre héroïne, moi, il y a d'autres albums évidemment, mais en tout cas, Kathleen, d'abord, prendre une femme en tant qu'héroïne d'une grande série comme ça qui va la transporter de l'occupation jusqu'à l'indépendance du Congo, c'est quand même une vraie forme d'originalité. Les héroïnes de ce type-là sont pas si courantes que ça dans la bande dessinée, même si ça change, mais c'est pas courant. Et je trouve qu'on s'incarne vraiment dans l'histoire de la Belgique en suivant cette jeune femme. On est vraiment au cœur des problématiques qui ont touché les gens. C'est ça que j'ai beaucoup aimé moi dans cette série.
Oui, c'est enfin, c'est grâce à Patrick Weber qui connaît bien l'histoire de la Belgique et voilà qui réfléchit en se disant tiens, mais telle année ça commençait à être l'émancipation de la femme, mais en telle année c'était autre chose, et donc oui, on va inclure cette thématique là en filigrane de l'histoire. Il arrive à comme ça imbriquer des choses que les Belges ont oublié de leurs propres histoires, comme dans l'incendie de l'innovation, qui était un grand magasin dans un bâtiment de Victor Horta, génie de l'architecture Art Nouveau belge. Dans cet incendie de l'innovation, les gens avaient oublié que c'était à ce moment-là la semaine américaine où l'innovation, ce grand magasin, présentait des produits des États-Unis pendant 15 jours, et qu'à ce moment-là, on était en pleine guerre du Vietnam. Et que la première hypothèse de travail des enquêteurs, ça a été l'incendie criminel pour protester contre l'impérialisme américain.
Oui,
donc c'est son génie de greffer par petites touches des thématiques et des sujets sociétaux qu'on a oubliés. Voilà.
Comment sont reçus vos albums en Belgique ?
En Belgique, c'est un immense succès. C'est chaque fois un carton. Évidemment, c'est différent pour la France, mais nous-mêmes, on a été très étonnés en sortant le deuxième, que la FNAC, en fin d'année, nous mettait dans le top des ventes et puis nous mettait sur les table à la sortie dans les produits incitatifs pour les cadeaux de fin d'année, à côté du chat de Luc, à côté du Largo Winch, à côté de, je sais pas, des vieux fourneaux et de toutes les grandes séries. Donc voilà, et non, c'est très très étonnant, et à la fois je dirais que c'est très réjouissant qu'un jeune éditeur et que des auteurs qui ne sont pas spécialement connus avant, qui n'ont pas fait une œuvre, en tout cas reconnue et adulée par les gens et la presse, arrivent encore à faire ça, alors qu'on dit qu'on est dans l'industrialisation de la bande dessinée.
L'autre chose qui vous caractérise, et bon, moi j'ai des goûts très variés, mais le style de dessin que vous avez mis en place pour tous ces albums sur l'histoire de la Belgique, c'est un style qu'on peut appeler de ligne claire, voilà, très très classique.
C'est en tout cas proche de la ligne claire.
Proche de la ligne claire, pas très loin. Quoi.
Oui.
C'est un dessin qui est toujours très réjouissant à contempler, à lire. C'est le mot facile n'est pas le bon mot, mais en tout cas, c'est des choses qui sont très agréables à lire. On peut faire passer beaucoup d'histoires très différentes avec ce style. C'est une volonté affirmée, ou bien c'est le hasard des rencontres de dessinateurs ou...
Le style, c'était de Baudouin, donc voilà, c'est lui qui voulait aller vers ça, parce que c'est un amoureux de Jacobs. Toute proportion gardée, il voulait essayer de se rapprocher de cette philosophie-là. Et puis, il a, quand lui a voulu faire une pause un an avec Patrick Weber et que j'ai monté un autre projet avec Patrick Weber, je me suis dit que un style un peu ligne claire, proche de la ligne claire, devait être le point commun de cette collection. Et donc, c'est comme ça que j'ai pensé à Olivier Bosniak pour Ostend 1905.
Le temps passe et je sais que vous avez vaqué à d'autres occupations. Pour finir la présentation de votre maison d'édition, est-ce qu'on peut parler des deux derniers albums que vous venez de sortir, qui, à mon avis, sont de très, très chouettes cadeaux de Noël? Donc, évidemment, c'est l'histoire de la Belgique, donc il faut s'intéresser à cette histoire, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi un album qui est un polar, un autre album qui est un moment de la vie d'Albert Einstein. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux albums que moi, j'ai trouvé passionnants?
Avant toute chose, j'aimerais dire que des albums sont construits pour intéresser tous les francophones.
Tout à fait.
Donc, c'est sur l'histoire de la Belgique, oui, mais derrière, il y a une vraie trame qui est, les albums sont totalement compréhensibles par tous. Le premier des deux, c'est Coq sur mer, 1933. Donc, il y a une station balnéaire qui est vraiment très cosy, qui a gardé son charme de l'époque, qui s'appelle, qui s'appelait Coq sur mer. Aujourd'hui, on dit plutôt Le Coq. En flamand, c'est de Anne. Et il se trouve qu'en 1933, quand Albert Einstein est allé aux États-Unis et puis est revenu en Europe parce qu'ils ne savaient pas très bien vers quelle orientation se diriger et qu'ils cherchaient une chaire aux États-Unis, mais ne l'a pas trouvé tout de suite. Donc, il est revenu en Europe et là, en Europe, on lui a dit, quand il est arrivé à Anvers, on lui a dit « Albert ne va pas en Allemagne, ça commence vraiment à sentir mauvais, notamment par rapport aux Juifs. » Hitler était arrivé au pouvoir, je suppose qu'il ne voulait pas aussi mettre son génie à disposition des nazis. Donc il est resté en Belgique, il a d'abord été dans un château en Flandre chez des amis, et puis là on lui a conseillé d'aller au Koch, où il a vécu pendant 5 mois. Et donc, l'histoire que Rudy Miel, le scénariste, raconte et qui est dessinée par Baudouin Deville est totalement vraie. La tête d'Albert Einstein était mise à prix par la Sinn-Féin, une organisation nazie. Et donc, ils ont bâti une histoire là-dessus. Mais chacun des récits de cette suite d'albums sur la Belgique est une fiction qui s'inscrit dans un cadre rigoureusement documenté, oui, avec un dossier de texte à la fin qui recadre les choses. Voilà. Et le deuxième, c'est Ostend 1905.
Je précise que dans les deux albums, il y a un personnage qui est commun, qui est l'immense peintre belge James Ensor. Donc on retrouve dans les deux albums.
Oui, effectivement. Et par rapport à Einstein, il y a une réunion mémorable avec le ministre de l'Éducation qui avait proposé une chaire à Paris. Le ministre français qui s'appelait Mackenzie, qui a été décoré en sort à Ostende. Et après, ils ont passé un moment ensemble avec Einstein au Koch. Et c'est très rigolo parce que quand on voit les photos de l'époque, il y a les bouteilles de vin et d'alcool qui se suivent sur la table selon les photos. Et on voit qu'après, ils ont tous l'air d'être très fatigués et un peu énervés.
Donc le deuxième album, c'est une autre époque, toujours sur la côte belge, que là on est à Ostende.
Oui, Léopold II voulait faire d'Ostende une sorte de Monaco ou de Biarritz de la côte belge et inviter tous ses hôtes prestigieux. Il avait invité le Shah d'Iran, le Shah de Perse plutôt à l'époque, en 1905. Il a réellement été là-bas. Parallèlement à ça, Léopold II amenait sa maîtresse, Blanche de la Croix. À l'époque, il était veuf, mais il avait perdu sa femme, mais il avait une maîtresse officielle ou officieuse, mais qui était connue de tous à Bruxelles, Blanche de la Croix, mais sa venue faisait grincer les dents. Il y avait un climat protestataire au stand pour protester contre la venue de cette femme. Et parallèlement à ça, Patrick Weber a imaginé que l'émissaire du Shah de Perse, qui était chargé de préparer la venue, est assassiné dans sa baignoire au Royal Palace Hotel. Et donc la question est posée, qui a tué l'émissaire du Shah? Et c'est un commissaire un peu vieille France à la Hercule Poirot qui mène l'enquête, qui s'appelle Ensor avec un A, pas un E comme James Ensor, et qui est chargé dans les plus brefs délais par le roi de trouver un coupable et pas le coupable, la nuance est de taille.
Non mais c'est un très très chouette polar qui fait naviguer le commissaire dans le monde de l'art, dans le monde un peu interlope évidemment d'Ostende. Enfin c'est un magnifique récit, j'ai trouvé ça.
Ben merci.
Et surtout quand on connaît...
Je ne suis pas très objectif.
Surtout quand on connaît un peu la côte belge, c'est l'ambiance est extrêmement bien reprise, respectée. Il y a les pêcheurs de crevettes. Enfin, c'est assez réjouissant. Et effectivement, comme vous le disiez, tous les lecteurs francophones peuvent y retrouver leur compte parce que les histoires sont bien troussées, bien tricotées et le dessin est vraiment magnifique.
Mais la volonté aussi était de présenter ce qu'était Ostende à l'époque. Ostende a été détruit en partie à cause de la guerre, mais surtout à cause de l'immobilier. Et donc, il n'y a quasiment plus aucune maison d'époque qui subsiste dans cette ville, ou en tout cas en front de mer. Et donc, notre volonté était de présenter une représentation graphique de ce que fut cette ville qui était vraiment majestueuse.
Toutes les villes du bord de mer belge ont été ravagées par l'immobilier, quasiment.
Oui, sauf le Koch qui est resté très, 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 très belle.
Nicolas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi pour parler de votre travail d'éditeur et des deux albums que vous venez de sortir, qui, je l'ai déjà dit, mais je répète, peuvent faire de très, très jolis cadeaux de Noël. Donc, le premier, c'est l'histoire d'Albert Einstein et des 5 mois qu'il a passé au Coq-sur-Mer. 46 pages plus un dossier historique au prix de 15 euros. Le second, c'est un polar très réjouissant et assez jubilatoire, Ostende 1905, 15,50 €. Donc, on est dans des tarifs tout à fait normaux d'albums de bande dessinée. Donc, je vous dis au revoir et surtout à bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.